auto-obésité. La carte de visite de chacun est beaucoup axée sur le type de voiture qu'il possède. On n'est pas en train de progresser, à mon avis.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom Zen. 2 heures désormais pour décrypter l'actu sans oublier d'en rire. Tout à l'heure, en deuxième partie, nous vivrons la magie des Paralympiques avec quelqu'un qui les a vécus de l'intérieur et qui a été victorieux, l'immense champion de tennis fauteuil, Mickaël Jérémiaz. En termes d'athlète, ça nous changera un peu de Quentin, lui. Mais pour l'heure, c'est avec notre proverbiale curiosité intellectuelle que nous allons zoomer sur notre mot du jour, ce phénomène dans l'air du temps qu'on se fait fort de décrypter. Aujourd'hui, un mot qui m'est venu en voyant notre rédacteur en chef, Cyril Lacarrière, arriver au bureau ce matin.
Attention, respect de la dignité humaine.
Je l'avais pourtant dit, Cyril, ok pour t'accorder le statut ronflant de producteur associé délégué en charge de la coordination, mais surtout, ne le crie pas sur les toits, tu vas faire des jaloux. Alors forcément, quand je l'ai vu débarquer dans son nouveau Mercedes classe G 6.3 AMG et balancer les clés à Quentin, il était si petit, j'ai cru que c'était le groom, expliquera-t-il. Pour se rattraper, j'ai compris que Cyril avait pété les plombs et n'avait pas résisté à l'envie de clamer sa réussite professionnelle à travers l'achat d'un véhicule dispendieux, un défaut que personnellement je ne comprendrai jamais. Hélas, Cyril n'est pas le seul à aimer les grosses bagnoles. En 2024 encore, à l'heure des mobilités douces que j'appelle de mes voeux, beaucoup de Français restent désespérément convaincus qu'il n'y a point de salut en dehors du SUV. Seulement voilà, les chiffres sont là, aussi terrifiants que la dernière fois que je suis monté sur une balance connectée. En 20 ans, les modèles de voitures se sont allongés de 20 cm et ils ont grossi de 20%, comme moi cet été. Maudit, t'as pas ça partagé. Et voilà pourquoi, les véhicules devenant toujours plus gros, quitte à racler dans les parkings, et ça c'est très très agaçant quand vous racler dans un parking, un nouveau terme est né. Zoom aujourd'hui sur l'auto-obésité. Sachant qu'en France, 60% des déplacements se font toujours en voiture, jusqu'à 80% en milieu rural et périurbain. Comment gérer cette auto-obésité? Pourquoi voulons-nous des voitures toujours plus grandes? Faut-il taxer les SUV? Cyril a-t-il pris l'option couvre-siège bille de bois pour son dos dans la Benz?
Oui.
Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Ludovic Bu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Ludovic, vous êtes sociologue, entrepreneur et prof. Vous vivez au Mans, vous nous direz pourquoi c'est important de le préciser. Vous avez lancé 3 sociétés autour des mobilités durables et inclusives. Vous êtes le président de Moins Vite, une association de sensibilisation aux enjeux de la vitesse. Et vous avez publié en juin dernier « Tout voiture, on arrête tout et on réfléchit » aux éditions de l'Échiquier. Bienvenue, vous êtes venu évidemment pas en voiture.
En RERC, puisqu'il dessert juste à côté la maison de la radio.
C'est quand même très pratique, effectivement. Alors, Ludovic, avec vous, on va tenter de déconstruire cette obsession des grosses bagnoles qui, visiblement, persiste chez beaucoup de Français. Juste le temps de vous présenter mes fidèles acolytes, à commencer par celui qui va essayer cet après-midi de faire genre « Non, moi, la voiture, ça m'intéresse pas, la vitesse non plus, moi, c'est les mobilités douces !» et qui, dimanche soir, était en toupie.
Je suis le maître du monde.
Debout sur le canapé devant Canal+, serrant fort contre son cœur sa compagne italienne avant de l'asperger avec du mousseux pour fêter la victoire de Charles Leclerc à Monza.
Très beau Grand Prix. Hein.
Très beau Grand Prix, décontenancé par le triomphe de son champion. Il aurait même été victime d'une panne plus tard dans la soirée. Ce soir-là, il aurait dit à sa dulcinée...
C'est un peu comme à la radio en fait, s'il n'y a pas le rouge, j'y arrive pas.
Bonjour Quentin, lui.
C'est quoi Cyril, le truc de la dignité?
La dignité. La dignité humaine.
Oh là là.
Le respect de la dignité humaine.
Et c'est dans son contrat, ça?
Oui.
C'est violent.
Vraiment, Quentin, les bagnoles, c'est vraiment pas votre truc.
C'est pas mon truc. Je déteste ça. J'ai même fait l'acquisition d'un scooter électrique équivalent 125, c'est vrai, pour me déplacer. Donc vraiment, c'est pas mon truc. Maintenant, si vous me demandez de parler bagnoles, je peux le faire. Le résultat d'un micro-trottoir au milieu de l'auto-obésité de Paris, c'est dans la prochaine demi-heure.
À vos côtés, Ludovic, elle, c'est tout l'inverse de Quentin. Elle ne loue de voiture que lorsqu'elle y est absolument obligée. Elle est persona non grata chez Hertz, Avis, Europia. Sixte, chez qui elle n'a jamais rendu une seule voiture intacte et même ressemblant encore vaguement à une voiture. Mais elle le sait, elle en a conscience. Alors cet été, elle a pris, je cite, une double assurance, ce qui ne sert à rien, mais démontre qu'elle prend le problème au sérieux. Bonjour Manon Mariani.
Bonjour, n'empêche, j'ai pas eu d'accident, n'est-ce pas?
Oui.
Et tout à l'heure, je vais vous présenter un influenceur qui, lui, n'a, à mon avis, jamais pris d'assurance quand il loue une voiture. Au contraire, il en teste par centaines et il les collectionne.
Mon Dieu. Aux alentours de 16h30, dans le Zoom Zoom Test, Cyril découvrira, déconfie, lui qui pensait avoir la plus grosse, que non, il existe des véhicules encore plus démesurés que son classe G. Juste avant 17h, Rosa Burstein nous rejoindra pour nous dire si elle aime les rédacteurs en chef qui ont de grosses voitures. De votre côté, ça c'est très important, n'oubliez pas de réagir à nos sujets. Cet après-midi, posez vos questions à Mickaël Jérémiaz ou nous racontez-nous votre expérience des Jeux paralympiques. 01 45 24 7000, vous nous laissez un vocal et on en parle. Mais revenons d'abord à nos chères bagnoles. Alors déjà, Ludovic Bu, est-ce qu'on n'a pas un temps de retard avec ce thème de l'autobésité? Pour vous, grosse ou petite, la voiture, c'est déjà de l'histoire ancienne. Ça devrait en tout cas.
Non. On vit dans un monde qui tourne autour de l'automobile. Et le thème de l'auto-obésité, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce livre « Tout voiture, on arrête tout et réfléchit », c'est que justement, on vit encore dans un système qui est le « tout voiture ». Et vous avez parlé de la taille des voitures qui a augmenté de 30% en 30 ans, 20% en 20 ans, et c'est une courbe qui continue à augmenter. Mais ce n'est pas le seul problème. Il y a le nombre de voitures qui augmente, la quantité de kilomètres parcourus chaque jour qui augmente, la vitesse de nos déplacements qui augmente. Et ça a explosé, en fait, ces 50 dernières années.
Ah pardon, on va peut-être en parler dans l'émission, mais ça me paraît un point étonnant. On roule plus vite aujourd'hui, malgré les limitations de vitesse, malgré les radars, on roule plus vite qu'à l'époque où Sardou descendait à Nice en 7 heures ?
Oui, parce qu'il y a de plus en plus de rocades et de plus en plus d'autoroutes. Et donc, en moyenne, la vitesse moyenne, elle a augmenté.
Face à vous, Ludovic.
J'adore les affrontements.
Ce regard que vous me lancez,
un
Mathieu.
Passionné d'automobile.
Saisissant.
Passionné. Hein.
C'est
excitant.
Exactement. Les gros cylindres, c'est votre truc. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à toutes. Bonjour à tous.
C'est vous qui êtes un dingo d'automobile qui, en 30 ans, n'avait jamais loupé ni un Grand Prix de F1, ni un épisode de Turbo. Dites-nous, l'autobésité, d'où ça sort?
Quand est-ce que les voitures ont commencé à faire comme moi et comme vous, Mathieu, du coup, à grossir? Les grosses bagnoles ont longtemps eu un petit surnom 4x4, un petit diminutif pour parler des voitures à 4 roues motrices, sauf que voilà, 4x4, ce n'est pas forcément un gros véhicule, c'est juste, et à commencer, une manière de qualifier un système de transmission.
Les roues motrices, Cyril, sont celles auxquelles le moteur transmet sa puissance. Selon le type de véhicule, elles peuvent varier et se situer à l'avant, à l'arrière, voire les deux en même temps. C'est là qu'on parle d'un véhicule 4 roues motrices. On dit aussi transmission intégrale.
Merci Quentin.
C'était vraiment très intéressant.
Et qui c'est qui a inventé les 4x4? Les Américains, bien sûr. Eh bien non.
Non,
des Néerlandais, deux frères. Et tiens, j'en profite. On dit des Néerlandais, pas des Hollandais. La Hollande, ce n'est pas un pays, c'est une province, c'est même deux provinces, celle du Nord, celle du Sud. Donc, on arrête avec la Hollande. Merci pour tout. Bref, ce sont les frères Speaker qui ont inventé ce système de 4x4 et c'était en 1903.
Merci Cyril, vous nous disiez que qui dit 4x4 ne dit pas forcément grosse voiture.
Non, mais c'est un raccourci qu'on fait tous collectivement, parce que quand on entend 4x4, on entend en fait des Jeeps ou des Range Rover, une belle voiture, n'est-ce pas Mathieu? Vous vous souvenez peut-être des Hummer. Au début des années 90, cet énorme engin symbolise jusqu'à la caricature le gigantisme de la voiture. Et puis finalement la marque a périclité. Mais ça n'a rien changé à la trajectoire, vous avez commencé à l'évoquer Ludovic Bu, et au goût des automobilistes. Les gens aiment aujourd'hui encore les grosses bagnoles et aujourd'hui pudiquement on appelle ça des SUV pour Sport Utility Vehicle. Comme si dans cette grosse caisse on était plus en sécurité. Alors qu'est-ce que traduit cette auto-obésité? Pourquoi cette course à la grosse caisse? Qui pour enrayer cette inflation? Comment apprendre à vivre avec moins de voitures? Faut-il la faire disparaître des villes et de nos vies? Est-ce que ce n'est pas trop radical? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Ludovic Bu, vous êtes expert en mobilité. Alors déjà, pourquoi les voitures sont-elles de plus en plus grosses?
Oui, il y a un certain nombre de raisons réglementaires, de marketing, de sécurité perçue par notamment des utilisatrices, de puissance dont on parlait tout à l'heure, perçue par des utilisateurs. Mmh. Et justement, les véhicules les plus gros sont à 80%, selon les études, mais ça tourne autour de ce chiffre-là, possédés par des mâles qui se sentent puissants grâce au moteur qui rugit. Et dans l'odyssée contre les voitures électriques, il y a aussi cet aspect de moteur, de bruit, de puissance perçue dans le véhicule. Et aussi dans les villes, une frustration ressentie sur « mais j'ai un véhicule qui peut rugir et aller à 230 à l'heure, mais il est limité à 30 ». Très frustrant.
Je me demande, Ludovic, si on n'est pas quand même à un point de bascule, parce que vous parlez du rugissement du moteur, il y a aussi des véhicules, des SUV ou même des 4x4 aujourd'hui qui sont 100% électriques, alors qu'ils ne sont pas forcément vertueux écologiquement parlant, puisqu'ils sont tellement lourds, mais en revanche, ils sont silencieux. Par exemple, je crois que le nouveau Range Rover électrique qui va arriver bientôt, le carnet de commande est plein. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent juste la grosse voiture, et même pas le rugissement du moteur, ils en foutent, ils veulent juste la grosse voiture. Qu'est-ce que ça dit ça? C'est un truc, c'est un complexe aussi, très masculin.
Encore une fois, je disais qu'une partie des acheteurs sont des acheteuses, des SUV, des 4x4 et autres gros véhicules, parce que vous avez raison, les 4x4 c'est juste un moteur, enfin c'est une manière de faire rouler les, de transmission, voilà, de faire que les 4 roues soient motrices. Donc ça ne présage pas de la taille du véhicule. Mais on a une part de minoritaire d'achat des gros véhicules qui sont des femmes et qui achètent ces gros véhicules parce qu'elles se sentent en sécurité à l'intérieur. Le problème est qu'elles sont dangereuses à l'extérieur.
Pour les piétons notamment.
Et pour les piétons et en particulier pour les enfants. Parce que plus les motos, plus les capots sont hauts, plus, moins on voit les enfants et plus on risque de les renverser et de leur rouler dessus. Et quand vous avez dans la presse, malheureusement, de temps en temps, des histoires de un père ou une mère qui roule sur ses enfants, 9 fois sur 10, c'est un véhicule qui est surdimensionné.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Zoom sur cet après-midi sur un fléau insidieux. On ne s'en rend compte que lorsqu'on tombe sur une vieille 205 ou, pour les amateurs, une 911 des années 80, on dirait des voitures miniatures, des jouets comparés aux compacts et aux sportifs d'aujourd'hui. Zoom sur ce qu'on appelle l'auto-bésité. Avec vous, Ludovic Bu, vous êtes spécialiste justement en mobilité. Je rappelle ce chiffre, la taille des voitures a augmenté de 20% en 20 ans. Dans le même temps, la part des Français en situation d'obésité a doublé. Est-ce qu'il faut y voir un lien aussi ou vraiment ce sont des sujets qui n'ont rien à voir ?
Il y a un lien évident qui est que l'usage massif de la voiture fait qu'on marche beaucoup moins. Et en plus du chiffre que vous avez donné, il y a un chiffre qui est un autre chiffre qui est aussi important qui participe de cette obésité automobile, qui est que dans les années 60, il y avait 7 millions de voitures particulières. Aujourd'hui, on est à 40 millions de voitures particulières. Ça veut dire qu'à peu près tous les gens qui sont en âge de conduire ont une voiture. Mais c'est pas vrai. En réalité, 19% des foyers français n'ont pas de voiture. Donc ceux-là sont contraints de marcher ou de prendre des transports en commun, etc. Mais tous les autres conduisent de plus en plus, sur des distances de plus en plus longues, et donc marchent de moins en moins, ce qui induit que l'espace public est de moins en moins accessible à ceux qui se déplacent avec des vélos, à pied, en fauteuil roulant, avec des poussettes, etc. etc. Et donc, c'est un cercle contraire de vertueux, c'est de pire en pire, parce que plus il y a de voitures, moins il y a de piétons, et moins il y a d'espace pour faire de l'exercice physique.
Le choix de l'électrique, le tournant, le virage vers l'électrique qui a été décidé, est-ce que c'est une bonne chose du point de vue de l'auto-obésité ? Non, puisque les voitures électriques sont encore plus lourdes que les voitures thermiques.
Pour moi, le virage vers la voiture électrique, c'est juste un moyen de relancer l'industrie automobile.
Donc, à ce point-là ?
Pour moi, oui,
c'est une entourloupe à ce point-là.
C'est-à-dire qu'on fait la même chose avec une autre motorisation. Et donc le problème n'est pas de changer la motorisation, ce qui est un problème, la motorisation est un problème de pollution urbaine, ça oui. Mais le problème, c'est le système automobile qui fait qu'on se déplace, comme je le disais, de plus en plus en voiture. Et donc la question, et avec d'autres modes motorisés, parce qu'on augmente aussi les quantités de déplacements en bus, en train, etc., qui posent moins de problèmes de pollution, mais qui posent des problèmes énergétiques. Et donc la question primordiale pour moi, et c'est la moitié de mon livre, c'est comment faire pour réduire les besoins de parcours en kilomètres, pour avoir les mêmes services. Et donc réussir à aller à l'emploi, réussir à faire ses courses, réussir à aller au service de santé, réussir à aller à l'école, etc., en ayant moins besoin de parcourir des kilomètres.
Ludovic, ce que vous dites est vraiment, c'est le bon sens, mais le problème de la voiture, et vous l'analysez très bien, c'est que c'est pas qu'un moyen d'aller d'un point A à un point B, c'est aussi, vous dites même, un objet fétiche, c'est un signe de reconnaissance sociale, il y a une part d'irrationnel importante dans l'automobile. Si on réfléchit évidemment qu'on n'a besoin d'un 4x4, à part si on habite à l'Alpe d'Huez, mais enfin, ou en Corse, mais ça n'a pas de sens.
Bien sûr, et une grande partie de cet imaginaire automobile est perpétué par les budgets publicitaires, puisqu'on met 3 à 4 milliards d'euros en France, juste, et c'est pareil dans les autres pays européens, pour la publicité pour les automobiles. Et si vous regardez bien, chaque année, et si vous regardez bien la publicité automobile, on vous promet des trajets sans embouteillage, pas de problème de stationnement, jamais personne dans les rues, pas de pollution de l'air, et tout est agréable. Et quand vous arrivez à la réalité de ce que vous vivez tous les jours avec des voitures, on est loin de ce qui est dans la publicité. Mais n'empêche que la publicité est faite pour nous faire aimer les objets, les consommer.
La conséquence, c'est quoi ? C'est qu'il faudrait peut-être pas les interdire, mais réguler ces publicités, limiter ces publicités, comme on l'a fait avec le tabac et l'alcool.
Il y a eu un projet. Oui, tout à fait. Je fais le parallèle dans mon livre avec la lutte contre le tabagisme. Il y a eu un projet de loi contre les publicités climaticides qui a été rejeté par l'ex-majorité. Maintenant, on ne sait plus trop qui est la majorité. On est un peu perdu. Mais voilà, il y a des gens qui tentent de réguler cette publicité qui, en fait, ment en réalité sur ce qu'est la voiture vraiment.
Mais pour qu'on comprenne bien, on parle des poids d'une voiture. Moi, vraiment, j'y connais rien du tout. C'est quoi le poids moyen d'un véhicule aujourd'hui et à quel point il a grossi comparé aux années 90 ?
Cyril, non, c'est pas Cyril, vous.
Moi, c'est Mathieu. Mathieu, lui, c'est Cyril. Pardon, Cyril, c'est le barbu, c'est... plus barbu.
Mais voilà, vous êtes deux grands barbus comme c'est moi, difficile. Et donc à la fin, je m'y perds.
Il y a Quentin aussi. Il est un peu plus petit.
Je suis un peu plus petit.
Voilà, exactement. Désolé. Et pour les auditeurs qui sont pas, qui nous voient pas, désolé
ils
aussi.
Ils nous suivent sur franceinter.fr.
Voilà. Non, la question, c'est, encore une fois, c'est on a dépassé la tonne en poids moyen. Donc pour déplacer un humain qui en moyenne fait 75 kilos, hein, ce qui est quand même un rapport poids matériel déplacé ou quantité déplacée qui est tout à fait discutable. Et encore une fois, c'est pas tant chaque véhicule, c'est la quantité de véhicules qui envahit l'ensemble des territoires et qui régule nos vies. Parce qu'aujourd'hui, les employeurs, les pouvoirs publics, etc. pensent voiture. C'est-à-dire qu'on pense le territoire en matière de temps de déplacement en voiture, de capacité de déplacement en voiture, etc. Et donc c'est pas tant c'est pas que la taille des véhicules, même si c'est le thème de l'émission aujourd'hui, que la quantité, les vies que ça induit, etc., etc.
C'est l'obésité du parc automobile tout entier.
Et des humains qui sont dedans.
Face à vous, Ludovic, un garçon exemplaire, qui la nuit rêve de victoire à Monza et de petites routes de montagne au volant d'une puissante Lamborghini, mais qui, quand le jour arrive, il arrive à France Inter tranquillement sur un minuscule scooter électrique qui fait... Quentin,
mais
la plupart du temps...
Il n'est pas si petit, hein, franchement.
Vous pas vu, bah vous... On s'est même pas vu depuis la rentrée.
Non, c'est vrai. On voit qu'à l'antenne. Quentin, la plupart du temps, vous faites encore mieux en termes d'émissions de CO2 et d'encombrement. Vous déambulez à pied,
oui,
à la rencontre de nos auditeurs.
Et autant vous dire que Paris est le terrain de jeu idéal pour parler de notre mot du jour. Je passe devant un fleuriste à qui il reste des tournesols magnifiques. C'est ici que je fais la connaissance de ce jeune homme. Musique dans les oreilles, main dans les poches, d'un pantalon cargo noir.
Alors bonjour, je m'appelle Malo, j'ai 19 ans et je vais commencer mon année de deuxième année de prépa littéraire là, à la rentrée.
Un étudiant en prépa littéraire qui se prête au jeu du nouveau mot.
Autobésité, non. Je pense qu'il n'existe pas. Parce qu'il n'existe pas de préfixe O. Donc obésité avec le préfixe O, bah, ça ne pourrait pas exister. On ne pourrait pas rajouter un autre préfixe derrière, autobésité. Je pense qu'il n'existe pas.
Ok, et pourtant.
Merde. Ok, oui. Bon, d'accord, rien à voir avec l'obésité, déjà, ça me rassure un peu, mais... Ok, d'accord. Eh ben, je vous propose d'aller interviewer quelqu'un d'autre.
Alors. Non, pas si vite, jeune homme. Je parle à Malo de la place des voitures dans nos vies, de leur évolution technologique, de notre dépendance à ces engins du diable, et tout de suite, la littérature le rattrape.
Sur la dépendance aux bagnoles, alors là, tout de suite, évidemment, il y a Heidegger. La question de la technique, dans les essais et conférences. En gros, il explique en quoi la technique moderne... Bon, il dit qu'elle nous a arraisonnés, donc en gros, on est dépendant, on est prisonnier dans notre rapport au monde, à la technique, en fait, la technique moderne. On est au bord d'un ravin et on est pile au moment où on peut encore décider de ne pas avancer et ne pas tomber dans le ravin, ou finalement se laisser encore enchaîner à la technique et tomber, finalement. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de prendre des chemins différents, donc l'humanité entière, je peux pas parler au nom de l'humanité entière, mais il y en a certains qui commencent à se réveiller.
Et d'autres qui achètent des 4x4. Voilà, je fais quelques mètres et je rencontre Olivier qui donne des cours de soutien scolaire. Au moment où je lui parle de notre sujet...
Des grosses autos dans la cité. J'ai choqué. Voilà, ça c'est frimé avec le son, c'est comme avec la grosse moto. C'est moto-obésité.
Voilà, c'est pas une moto, c'est une voiture qui vient de faire ça.
Ah bon ? Ouais, mais c'est comme les motos. Ouais. Je fais beaucoup de bruit parce que j'existe. Et j'ai une grosse voiture. Je le dirai pas plus loin. Parce que je suis un peu vulgaire. J'ai une grosse bite, j'ai une grosse voiture. C'est un peu ça, quoi.
À l'adage dit que la voiture serait même le prolongement du mou membre en poche, avec peut-être effet compensatoire. Est-ce que c'est vrai ? Cette jeune femme, maintenant, lunettes de soleil, un top rose fuchsia, un jean pas de def.
Bonjour.
Est-ce que je peux avoir votre prénom ?
Camille.
Camille, c'est quoi votre truc dans la vie à vous ?
La publicité, je travaille dans la pub.
Comment vous vous déplacez en ville ?
Toujours en transport en commun et sinon à pied, quand c'est possible.
On y va, c'est le mot du jour dans Zoom Zoom Zen. Ça ressemble à ça.
Autobésité, ok ?
C'est quoi ?
Je pense qu'on parle des gros véhicules qui n'ont rien à faire en ville.
Je lui demande de décrire la rue qui est autour de nous.
Alors là, je vois beaucoup de autobèses, du coup, c'est ça ?
Ouais, on va dire ça.
Je pense que c'est le terme. Non, mais plus sérieusement, ouais, pour moi, ça n'a rien à faire en ville, en fait. Je ne comprends pas ça. Moi qui suis adepte en plus des transports en commun, des mobilités vertes au maximum, voilà, je suis complètement contre. Et souvent, quand je vois des véhicules de cette taille, je constate que c'est un homme seul, en plus, à l'intérieur. Et c'est encore pire.
Elle n'a pas tout à fait tort. Preuve sous mes yeux, ce monsieur fait son créneau, grosse bagnole. Je passe en mode Élise Lucet, je tape au carreau. Bonjour. Bonjour.
Oui.
Je travaille pour France Inter.
Oui.
On fait un truc sur les voitures, est-ce que je peux vous embêter une minute ? Je lui demande s'il considère qu'il possède un trop gros véhicule.
Non.
C'est une grosse voiture quand même.
Non. Bah c'est une... c'est... Non, c'est pas un SUV.
C'est quoi ça ?
C'est une voiture à basse émission. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de moins polluant pour l'instant. Mais
est-ce que ça prend beaucoup de place par rapport à 206 par exemple?
Non, elle est dans toutes les normes. Pourtant à Paris, ils sont assez stricts là-dessus. Elle rentre dans toutes les normes.
Ok.
Voilà, il n'y a pas de souci. Merci.
Allez, merci. Au revoir. Fin du contrôle.
Il a pris un flic, en fait.
On sent que ça bafouille un peu. Hein, mais si ça rentre dans les normes, alors... Dernière rencontre, Michel, qui m'observe arrêter des bagnoles et que ça amuse.
Ah oui, d'accord. Non, je ne connaissais pas.
L'obésité des voitures.
Oui,
regardez ça... celle-ci derrière nous, là.
Oui, je suis conscient du truc. Ça ne sert à rien. C'est du 4x4 centre-ville, ça.
Pourquoi on a ça? Pourquoi on est arrivé dans une époque où tout le monde veut un gros 4x4?
Le business est comme ça, et parce que la carte de visite de chacun est beaucoup axée sur le type de voiture qu'il possède.
Encore en 2024?
Ah ben évidemment, et on n'est pas en train de progresser à mon avis.
L'augmentation du nombre de véhicules, l'augmentation de leur taille, de notre dépendance aussi, tout ça dans un monde où ça reste une certaine idée de la carte de visite d'un bonhomme qui a réussi. Là maintenant, le mot auto-obésité, je crois que je l'ai bien compris.
Ludovic Bu, expert en mobilité, est avec nous cet après-midi pour comprendre notre addiction aux voitures et cette auto-obésité qui frappe la France, pas que la France d'ailleurs, hein, c'est un phénomène mondial j'imagine.
C'est un phénomène mondial et qui malheureusement croît beaucoup plus vite dans les pays dits en développement. Là pour le coup ils sont vraiment en développement, notamment en Afrique subsaharienne où les embouteillages deviennent totalement inextricables. Ils étaient déjà dans des situations, enfin, les grandes capitales comme Nairobi étaient déjà des centres d'embouteillages interminables, mais plus il y a de voitures, pire ça devient.
Mais par exemple, une ville comme Los Angeles où on ne peut pas se déplacer sans voiture, ça paraît logique du coup que des gens achètent des grosses voitures pour être confort dedans. Est-ce que ça a le même impact là-bas ?
Ça a le même impact. Alors, Los Angeles, c'est un bon exemple parce qu'aux États-Unis, on détruit de plus en plus les rocades et autoroutes urbaines. Justement, pour certaines, on les transforme en boulevards urbains, c'est-à-dire qu'on réduit très largement et la taille et la vitesse avec laquelle on peut les emprunter. Et à certains endroits, on les enlève carrément, on met des parcs, on met des espaces pour les enfants. Regardez Times Square à New York. Times Square à New York, c'était un carrefour gigantesque. C'est devenu un espace public piéton dans lequel il y a des bancs, des espaces de jeux pour les enfants,
etc. Donc, même aux États-Unis, le pays de la bagnole par excellence, il y a une prise de conscience forte.
Et elle a même commencé avant la France, puisque là-bas, ou en Corée, ou dans d'autres pays européens, pas la Corée, dans des pays européens, parce que la Corée n'est pas vraiment en Europe, mais je suis expert en mobilité, je ne suis pas expert en géographie, désolé. Mais voilà, dans plein de pays en réalité, et la France est en retard finalement par rapport, y compris aux États-Unis. Aux États-Unis, à Portland, ils ont détruit des autoroutes urbaines qui étaient en plus surélevées, donc qui portaient en plus le problème du bruit sur la ville. Ils ont détruit le long de la rivière une autoroute dans les années 70 ou 80. Et en fait, ce mouvement-là, il est mondial, et c'est en France où on a le plus de mal à détruire ces autoroutes urbaines. Je plaide depuis des années pour qu'on détruise le périphérique.
Bien sûr. Quoi, une parce que c'est...
Il faudrait mieux mettre des parcs qui manquent très largement à Paris, puisque c'est la ville européenne où il y a moins
voitures,
de mètres carrés. Mais en dehors de la ville, c'est-à-dire sur la... C'est quoi la 86 ?
Il y a la 1 qui vient du nord, mais...
Non, mais là, vous parlez de pénétrante. Moi, je parle de rocade, le périph'. C'est une rocade dans la ville. Et donc la 86 ou même la suivante, la 104 je crois, ce sont eux des périphériques de la zone dense.
On pourrait se passer.
Parce qu'en réalité la zone dense elle commence déjà en deuxième couronne de Paris. Elle commence à Cergy-Pontoise, elle commence à Marne-la-Vallée.
Pardon mais là l'actualité fait que dans un premier temps la limitation du périph à 50 km/h, la nouvelle
très bien.
D'Hidalgo, ça
très bien.
Très bien. Bravo à Hidalgo.
C'est à mon sens pas assez, mais après moi je suis pas politique donc j'ai pas à gérer le calendrier électoral.
Vous êtes d'accord avec Malo, cet étudiant qui cite Heidegger sur notre dépendance à la technique, quand on voit les accessoires technologiques. Aujourd'hui, on a le Spotify qui est... En fait, c'est presque une pièce en plus, la voiture. Oui. Connectée, ça ne va rien arranger, ça.
Non, tout à fait. Moi, je cite plusieurs fois Jacques Ellul qui a ce même genre de propos sur notre emprisonnement dans la technique. Technique qui devrait être à notre service. Et la voiture, mon propos n'est pas d'interdire, ça a été évoqué tout à l'heure. Au contraire, il y a des moments où la voiture est un outil tout à fait pertinent. Même les 4x4 ont leur usage quand vous êtes dans des terrains accidentés ou des terrains boueux ou ce genre de choses. Oui, ça a tout à fait sa raison d'être. Et maintenant, j'habite à Châtellerault et plus au Mans.
Ah, vous avez bougé.
Une zone, j'ai habité au Mans il n'y a pas très longtemps. Et une zone dans laquelle il y a beaucoup de zones, dès qu'on sort de la ville, en fait, on est en zone rurale et des gens ont des 4x4 parce qu'ils habitent dans des chemins. Et donc, aucun problème avec ça, c'est tout à fait pertinent. Mais par contre, on les utilise beaucoup trop, et donc on s'est rendu dépendant de technologies pour des usages qui sont absurdes. Parcourir 500 mètres avec une voiture, alors qu'on peut y aller à pied pour chercher une baguette de pain. Absurde.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Moi, je te fume quand tu veux sur le 0 à 100 avec mon Segway. Voilà ce que me déclarait Quentin Gobnard
ce matin. Segway.
Un défi que je déclinais évidemment, les concours idiots, ce n'est pas mon truc, sauf peut-être le Zoom Zoom Test, qui lui est éco-friendly, neutre en carbone et surtout rémunéré. Et aujourd'hui, pour illustrer les dérives de l'autobésité, cette propension qu'ont nos voitures à grossir à chaque génération, je vous propose de partir à la découverte des bagnoles les plus incroyables de l'histoire.
Oh là là.
Un quiz douloureux pour Ghislain Fontana, notre réalisateur éco-responsable qui, Véja au pied et banane patagonienne en bandoulière, passe ses nuits en maraude dans Paris pour coller des autocollants « Touche pas à mon vélo » sur tous les SUV, dont celui de Cyril qui, alerté sur ses activités éco-terroristes, a d'ores et déjà déclaré « Si je le chope, lui je le vire et on le remplace à la Réal par celui qui a toujours été mon premier choix, Pat Le Guen ». Vraiment, dommage que ce soit Ghislain en régie aujourd'hui et non Alicia, notre autre réalisatrice, qui elle n'a rien contre les grosses voitures, elle a travaillé 6 ans avec Nagui. Mais attention, top! On connaît tous l'attrait de Quentin pour les belles mécaniques. Eh bien, hier soir, sur le site La Centrale, il est tombé sur la pépite particulier CED Cadillac Eldorado de 30 mètres et 26 roues. Vous connaissez le besoin de compenser de Quentin, le coup de foudre immédiat, il ne peut pas passer à côté de la voiture la plus longue du monde. Mais enfin, outre l'autoradio et l'allume-cigare, de quelles options plus originales dispose cette Cadillac? Un terrain de mini-golf?
Non.
Un héliport? Ou une piscine avec un plongeoir.
Pardon.
C'est la piscine.
Ah, plongeoir.
Je sais pas.
Maintenant, votre connaissance
non,
de l'automobile.
Le truc, comment ça le plus aberrant.
Ah, c'est chaud quand même d'avoir de l'eau dans la bagnole et tout, c'est pas possible.
Bah, j'ai dit c'est bon, voilà, vous avez dit ah, bon, voilà, ça va être B.
Moi
voilà,
je vous donne l'opportunité d'une autre.
Bah, les trois.
Les trois, Quentin, oui, c'est le modèle toute option qui intéresse Quentin. Propulsé par deux moteurs V8, l'American Dream, c'est son surnom, a été restauré en 2020. Elle peut transporter jusqu'à 75 personnes, soit la quasi-totalité des nouveaux humoristes de Zoom Zoom Zen. Maintenant que vous connaissez la plus grande voiture du monde, je vous propose de pénétrer au sein d'une autre aberration écologique, le plus grand garage d'un particulier au monde. D'après vous, Manon, Quentin, combien de véhicules comporte la plus grande collection privée de voitures au monde? Il y a un type quelque part qui possède 1550 bagnoles.
Oui.
1950 bagnoles. Ou plus de 4000 bagnoles.
C'est... Je l'ai dit avant.
Elle est très très bien. Non, je pense que Manon était... Ah, ouais. En tout cas, elle a crié plus fort.
Oui, voilà.
Et c'est les dB qui comptent. Oui, hélas, il n'est pas dans vos contacts WhatsApp. Il s'appelle Hassanal Bolkia, profession sultan de Brunei. Entre 4 et 6 000 voitures, alors en plus, vous vous en doutez, on n'est pas sur de la Ford Fiesta ou du Renault Kadjar, des Lamborghini par paquet de 12, des McLaren, des Ferrari, une Rolls-Royce Silver Spur recouverte d'or 24 carats, parce que pourquoi pas. Valeur de ce garage, 4,5 milliards d'euros. Pour l'anecdote, le second garage le plus cher de la planète appartient à Ralph Lauren. Mais attention, top! Nous sommes à présent avenue Claude Bourbier, l'artère principale de Mourou, où nous retrouvons Benjamin Tranier au volant de son Fiat Multipla.
Salut les bons, mais comment ils vont mes graines de chien là?
Véhicule mythique avec son sympathique petit...
C'était Quentin, non?
Évidemment. Ah oui. Véhicule mythique, hein, le Fiat Multipla, avec son sympathique petit bourrelet de capot qui apporte à la voiture la même chose que ce début de double menton chez Cyril, du charme. Le problème du Fiat Multipla, au-delà de son esthétique discutable, c'est sa puissance. 120 chevaux, ce qui permet d'accrocher 130 km compteur, mais seulement en descente. Deux YouTube ont décidé de corriger ce défaut. D'après vous, après modification, quelle puissance affiche leur multiplat légèrement pimpé? 400 chevaux? 600 chevaux? Ou 1200 chevaux?
C'est les...
Vous voyez, 1200 chevaux
qui sont séparés, là.
Je sais pas ce que c'est, les chevaux.
C'est les
Villebrequin?
Oui, c'est ça.
Bah, excusez-moi.
Heureusement que vous avez bien bossé l'émission. Alors,
ça compte pas.
Ils sont allés au Mans.
J'ai dit B.
Ils ont roulé sur le circuit du Mans.
600 chevaux. La réponse, c'était Quentin. 1200 chevaux après l'autobésité, la cervorexie, 1200 chevaux dans une familiale censée en encaisser 120, c'est presque aussi con que certaines pratiques des assureurs automobiles. Saviez-vous que certaines caractéristiques de votre véhicule influent sur le tarif de votre assurance? D'après vous, Manon, Quentin, lequel des éléments suivants impacte votre prime d'assurance? L'accrochage ou non d'un désodorisant sapin parfum vanille de Madagascar? La couleur de votre véhicule? Ou la présence ou pas d'un allume-cigare?
B et C.
B.
C'est une bonne réponse de Manon.
Oh là, ah ouais.
C'est la réponse B, oui, Quentin, vous avez bien fait de prendre en noir votre Cadillac Eldorado. En effet, selon les assureurs, les véhicules rouges seraient plus susceptibles d'être impliqués dans des accidents. Et donc, la prime d'assurance doit être gonflée. Alors que si vous conduisez une voiture grise, visiblement, pas de danger, vous êtes chiant à mourir. Il ne vous arrivera rien. Victoire de Quentin,
oui,
et dirait,
à la
c'est
première.
La moindre des choses sur l'automobile.
La première de Quentin.
La première de la saison,
de la saison, je crois.
J'en ai eu une la semaine dernière, souvenez-vous.
Ah oui.
Et
ah
je m'avais volé hier, donc comme ça.
Alors,
merci à tous.
Alors que les quadragénaires de l'équipe l'ont fait en l'espace d'un été, elles ont grossi de 20 kilos en 20 ans. Zoom aujourd'hui sur nos voitures et ce phénomène de l'autobésité. Ludovic Bus, spécialiste en mobilité, est toujours avec nous. Comment on fait ? C'est la question centrale quand on habite à la campagne pour se passer de voiture. Moi, j'ai un Franprix en bas de chez moi à Paris, évidemment, je n'ai pas besoin de voiture. Quand on est en campagne, il faut aller dans une
vous allez au Franprix ? Première nouvelle.
Évidemment.
Vous faites vos courses, quoi.
Mais c'est ce que vous racontez. Je n'ai pas des gens qui vont Franprix pour moi. Comment on fait dans ces cas-là ?
Les bobos. C'est-à-dire qu'il va faire ses courses chez Franprix et au bon marché.
En voiture.
Mais je suis beaucoup trop loin du bon marché. Ou alors là, je dois prendre ma voiture. Bon, bref, expliquez-nous en campagne comment on fait quand on a vraiment besoin de son véhicule parce que les infrastructures ne sont pas là.
Bah, c'est un des problèmes, c'est que les politiques publiques et privées qui ont été menées depuis une cinquantaine d'années ont désertifié les campagnes. Et donc, un des axes des politiques publiques et aussi privés qui doivent être menés, mais les pouvoirs publics doivent accompagner ce mouvement, c'est d'inverser la logique. Et donc, par exemple, on a fermé des écoles au nom du fait qu'elles étaient moins rentables parce qu'il n'y avait plus qu'une classe. Ce faisant, on a augmenté les distances à parcourir, et pour les enfants, et pour les parents. Et donc, il faut sortir de la doxa, de la rigueur budgétaire, silo par silo, en se rendant compte qu'en vidant les villages, on augmente notamment les budgets de la sécurité sociale. Quand on ferme un hôpital de campagne, dans un bourg de quelques milliers d'habitants, eh bien, on crée des parcours en ambulance ou en taxi, etc. Et ça coûte 2 milliards par an à la sécurité sociale. Et donc aujourd'hui, ce budget a explosé. Et donc il faut vraiment, et c'est là que je dis que les pouvoirs publics ont un rôle, inverser la tendance. Par exemple, si je reste sur le médical, équiper pour un certain nombre de professions des bus aménagés. Ça existe dans deux départements en France. On a des bus aménagés pour certaines spécialités
comme
qui
quoi,
font le tour des villages. En étant le lundi dans un village A, le mardi dans un village B, une fois par mois, et on vient faire, par exemple, pour l'ophtalmo. On peut tout à fait faire ce genre de ou pour le cardio.
Vous n'avez pas besoin. Ils vont le faire. Vous pensez
ça existe déjà.
Ouais, mais vraiment en masse d'avoir des médecins
justement,
itinérants
c'est ça.
Comme ça.
Pour moi, la question, c'est que les pouvoirs publics ont déplacé le problème. C'est le cas de le dire. Mm-hmm. Et donc désertifier les villages, et donc rendu dépendants, y compris des gens qui ne sont plus en âge de conduire ou pas encore en âge de conduire. Et donc il faut remettre de la vie dans les villages, et vous parliez du Franprix, c'est un très bon exemple. Il y a de plus en plus de villages dans lesquels on crée des coopératives de consommateurs, c'est-à-dire que ce sont des habitants qui se mettent ensemble, qui créent des coopératives pour tenir un commerce, une épicerie qui fait boulangerie, qui fait bureau de poste et des multicommerces. Et de plus en plus, ça permet en fait de réduire le besoin en déplacement pour aller à la ville, dans la zone commerciale, pour faire ses courses, etc. etc. Et c'est plutôt ça la logique, c'est de se dire comment on fait pour recréer des vies dans les zones rurales, d'autant que, vu ce qui nous pend au nez de dérèglement climatique et donc de chaleur qui va augmenter, on aura de plus en plus besoin de quitter les villes pour aller habiter à la campagne où il fera moins chaud. Et donc il faut absolument accompagner ce mouvement déjà pour permettre la vie de tous et tous à la campagne.
Mais Ludovic, pardon de vous arracher au rationnel pour vous ramener vers l'irrationnel qui est indissociable de la bagnole. Emmanuel Macron disait il y a un an que les Français sont attachés à la bagnole, on aime la bagnole et moi je l'adore. Il disait. Quand on a un président qui nous dit ça en 2024, on peut être inquiet, on entend vos discours, il est empreint de raison, on a envie de vous suivre, mais il y a une dimension irrationnelle qui fait qu'on
n'avance pas. Il y a un poste de Premier ministre
qui est disponible. Vous êtes candidat, Ludovic Bu, exclusivité France Inter. On a été les premiers à le dire. Non mais comment on dépasse ça ?
Le président de la République, à certains moments, malheureusement de plus en plus souvent, il sent bon la naphtaline des années 60. Enfin, c'est complètement dingue de dire ça en 2024. Quand t'as interrogé tout à l'heure en 2024, on ne peut pas dire ce genre de choses, c'est pas possible. Après, il ne faut pas perdre de vue que la voiture peut être une passion. Et il n'y a aucun problème avec ça. 4000 voitures, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais les gens qui aiment la vitesse, il m'est arrivé de faire du kart sur des circuits et c'est très agréable.
Le frisson,
voilà. La question, c'est si c'est une passion, c'est pas 50 ou 60% des déplacements, c'est pas 80% des déplacements en zone rurale, c'est 5% et c'est une fois de temps en temps.
Mais pour vous, il existe une voiture idéale ou on doit la créer ?
Alors, il n'existe pas une voiture idéale, comme il n'y a pas de solution idéale pour toutes les situations. Par contre, il y a des voitures pour les villes et les métropoles en particulier, qui sont plutôt des voitures à une ou deux places électriques en libre-service, comme il y en a d'ailleurs dans Paris et dans d'autres. Il y a une trentaine de villes en France qui ont des services de ce qu'on appelle l'autopartage.
Ils ont enlevé les autolibs à Paris.
Ils les ont remplacés par d'autres.
Oui.
Ouais.
Et il y a des systèmes de transport à la demande, il y a des systèmes de voitures partagées, y compris en zone rurale, et aussi électriques d'ailleurs. Mais encore une fois, la question, la mutualisation aussi, on pousse de plus en plus, y compris la sécurité sociale, à ce qu'on partage des véhicules plutôt qu'être un seul humain ou 1,3 en moyenne depuis des années. Ce chiffre ne bouge pas, malgré tous les millions mis dans les systèmes de covoiturage. Et donc la voiture, elle doit être multi-usage. Et justement, la question, c'est que, on parlait des chevaux tout à l'heure, la voiture, elle a été copiée sur la diligence. C'est-à-dire que c'est un véhicule fait pour déplacer plein de personnes avec des coffres et des malles. Or, c'est plus l'usage majoritaire aujourd'hui. Et donc, il faudrait des véhicules en fonction des usages. Et pourquoi pas une voiture avec 75 places, si c'est pour déplacer un cop de supporters d'un club de village.
La Cadillac Eldorado de Quentin.
Pas forcément avec une piscine à l'intérieur.
C'est peut-être l'option.
Pour se détendre après le match de foot qu'on va gagner contre le village d'à côté.
Piscine naturelle, évidemment.
Mais la question, c'est vraiment d'utiliser les bons véhicules en fonction des usages. Et si vous me permettez encore un mot, il faut aussi que ces usages soient possibles. Parce que je pointais du doigt tout à l'heure, prendre la voiture pour faire 500 mètres pour aller chercher une baguette de pain. Si vous habitez dans une zone où il n'y a que des rocades ou des nationales, vous n'avez pas envie de le faire à pied. Et donc, il faut aussi pouvoir le faire.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Dans quelques instants, Rosa Burstein va nous dire si elle aime ou pas les grosses voitures. Mais d'abord, son moniteur d'auto-école avait mis sa démission dans la balance. Cette personne ne doit pas avoir son permis. Jamais. Hélas, grâce à des complicités haut placées, peut-être d'ailleurs son tonton Thierry Mariani quand il était secrétaire d'État au transport, Manon a fini par obtenir le précieux sésame. Aujourd'hui, Manon, vous qui êtes si à l'aise au volant, dites-nous donc qui il faut suivre pour aller plus loin sur ce dossier de l'auto-obésité.
Je vous présente Georges Maroun Kikano. Il a 32 ans, il est d'origine libanaise et c'est un influenceur automobile. Son pseudo GMK, tout simplement, ses initiales. Et physiquement, GMK, il en impose. Il mesure 2 mètres et pèse 130 kilos. Pour continuer dans les chiffres, il fait partie des plus gros influenceurs français aujourd'hui, avec plus de 4,5 millions d'abonnés sur Instagram, 2,5 millions sur YouTube et sur TikTok. Et la passion de GMK, c'est donc les voitures.
Frérot, cette voiture est un missile sol-sol. Le freinage, dès que tu effleures la pédale de frein, ça freine fort.
Comme vous l'entendez dans ses vidéos, il teste des voitures en tout genre. Tesla, Lamborghini, Bugatti, Bentley, elles y passent toutes. L'auto-obésité, GMK, il connaît bien. Plus c'est gros, plus ça lui plaît. La preuve avec l'une des dernières voitures qu'il a pu conduire en exclusivité, le Cybertruck de Tesla. Une espèce de pick-up qui ressemble à une Batmobile sans logo qui fait la fierté de son créateur Elon Musk. Pas la voiture la plus petite ni la plus discrète. Elle pèse plus de 3 tonnes. Mais GMK ne cherche pas à être discret. Au contraire, il a lui-même une collection de voitures à faire pâlir ceux qui veulent lutter contre l'auto-obésité.
Dedans, t'as des clés un peu de Audi, t'as de la Aston Martin, t'as de la Bentley, parce que oui, il y a de la Bentley que vous ne connaissez pas forcément. Ça, c'est la Supersport, par exemple. Ça, c'est une autre voiture qui est aberrante. Il y a pas mal de Lamborghini.
En tout, il en a 25. Bon, c'est assez peu comparé aux 4000 de tout à l'heure.
Mais début de collection.
Aucune électrique, car GMK n'aime pas l'électrique. Avec lui, rien ne vaut les bons moteurs thermiques à l'ancienne. Forcément, vous vous en doutez, GMK ne plaît pas à tout le monde et ce mode de vie un peu bling-bling à Monaco peut être critiquable, surtout quand on parle d'auto-obésité. Après qu'on valide ou pas, son succès n'arrive pas de nulle part, vous l'avez dit, mais GMK est un passionné et c'est ça aussi qui plaît, d'autant plus que des influenceurs automobiles de renom francophone, il n'y en a quasiment pas. Pour la petite anecdote, il est venu en guest au 2e GP Explorer de Squeezie, sa compétition de Formule 4 avec d'autres influenceurs. GMK a fait un tour de circuit en BMW, mais il ne pourra jamais participer à la compétition car il est tout simplement trop massif physiquement pour rentrer dans une F4.
Merci Manon, vous connaissez GMK, Ludovic ?
Absolument pas, mais il faut qu'il marche un peu plus.
C'est un sacré personnage.
Il fait beaucoup de sport. Quoi.
Ce genre d'influenceur, c'est le mal absolu pour vous ou... Parce que vous nous disiez tout à l'heure, je comprends qu'il y a des gens qui soient passionnés. Le problème, c'est que quand il a 4,5 millions d'abonnés, ça donne quand même un très mauvais exemple. Donc,
mais encore soyez passionné dans votre coin. Tout dépend le message qui est passé. Vous disiez, j'habitais au Mans, il y a des gens qui sont passionnés, j'ai fait un covoiturage avec quelqu'un qui allait aux 24 heures du Mans, moi j'y rentrais mais il m'a amené là, et tout au long du voyage, et plus on se rapprochait du Mans, plus c'était vrai, on était doublés par des véhicules Maserati, Bugatti et autres, et il les reconnaissait au son avant même qu'elle nous double.
Ah ouais.
Et il arrivait à me dire, ça c'est une Maserati machin, moi qui n'y connais absolument rien, je voyais passer la voiture, et je dis, ah, effectivement, c'est écrit dessus, et voilà. J'ai rien contre ça. Le message GMK, je ne le connais pas, donc je ne peux pas dire ce qu'il en dit. Si le message, c'est « j'adore ça, c'est des beaux véhicules, c'est des beaux objets techniques, et pourquoi pas ?» Si c'est faites ça en rodéo urbain dans les rues de votre village, non. Et donc voilà, toute la question est quel est le message. Si c'est sur le circuit des 24 heures, ça pose des problèmes de bruit pour la ville, oui, et pour les habitants qui sont autour, parce qu'on peut entendre le circuit 10 km plus loin, selon les sens du vent. Donc ça pose des problèmes de bruit, mais en dehors de cette problématique-là, pourquoi pas ? Si vous adorez ça, il y a des gens qui collectionnent les chaussures, moi je collectionne les disques, d'autres collectionnent les voitures, pourquoi pas ?
Mais c'est bien d'entendre ce discours, parce que souvent c'est très clivant, et les gens qui nous parlent de l'autobésité sont anti-voiture, ce qui n'est pas votre cas.
Ça pousse quand même à la consommation.
Oui, c'est vrai que ça pousse à la consommation. Après, il faut encore pouvoir consommer, parce qu'une petite Lamborghini n'est pas donnée.
Si vous me permettez, pourquoi pas consommer sur un circuit une fois de temps en temps ? Et il m'est arrivé une fois dans ma vie de conduire une Mercedes.
Sur circuit ?
Non, sur route, et je respectais les limites de vitesse, ce qui est pour le coup, je le fais toujours. J'ai perdu un point dans ma vie à cause d'un excès de vitesse en changeant de département, parce que ça passait de 90 à 80, ah, ça et je ne savais pas. Enfin voilà, bon. Donc ça m'est arrivé une fois. Mais une fois, j'étais au volant d'une Mercedes, et c'est très agréable à conduire.
Ah ça, je ne sais pas, mais j'imagine.
C'était à la campagne, en transportant plusieurs personnes. Voilà, c'est encore une fois, c'est pas le souci, c'est d'avoir le bon véhicule pour le bon usage.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Elle, je l'imagine bien au volant d'un break de chasse Audi, insulter les usagers qui encombrent la voie de gauche de l'autoroute en se traînant à 140. Pousse-toi avec ton A et ta Modus, Pecno. Bonjour Rosa Burstein.
Bonjour.
Et justement, je croyais pas si bien dire, c'est pas tout à fait Rosa qui est avec nous aujourd'hui. Comme il est toujours bon d'avoir un deuxième son de cloche, nous recevons cette fin d'émission sur l'autobésité Catherine Capot, lobbyiste à Bruxelles pour l'entreprise General Motors et fervente défenseuse de la présence des SUV en ville. Bonjour Catherine.
Bonjour Mathieu, pardon, mais ce titre d'émission, ça ne va pas du tout.
Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ?
Mon mot obésité, enfin ! Me dire de nos magnifiques voitures qu'elles sont obèses ! Non, non, non ! Nos SUV sont costauds, massifs, impressionnants, charismatiques, ils en jettent. On peut dire, à la limite, oui, qu'ils sont allés à la salle, ils ont pris des shakers de protéines et sont bien moulés, mais pas qu'ils sont obèses ! Bon, non ! Vous avez déjà essayé de vous baigner dans une piscine avec un gamin obèse qui plonge toutes les 30 secondes ? À la fin, il n'y a plus d'eau ! Vous avez déjà roulé en Tesla Model X devant des femmes, elles mouillent. Donc il y a un différent d'humidité. Voilà. Moi je pense qu'il faut arrêter d'écouter l'avis de trois écolos barbus radicaux qui sentent la gnôle. Pardon monsieur Bu, mais le rasoir et le déodorant, ça existe. Non, la vraie question, c'est quand est-ce qu'on va nous laisser conduire des vraies bagnoles de bonhomme et arrêter de participer à la féminisation de la société. Vous avez vu la cérémonie des JO ? Honte à cette Annie Dingo. Moi, je devais être prise comme chroniqueuse dans l'émission de Monsieur Hanouna, mais apparemment, même pour Europe 1, je suis trop clivante. Ça ne me déstabilise pas pour un sou. Je continuerai à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Monsieur Noël, vous m'avez invité, vous l'aurez. Le vélo, c'est pour les pédales. La trottinette, c'est pour les lopettes. Pas de mystère. Et ne me traitez pas de réac, parce qu'on s'est adapté, nous aussi, au changement de la société. On fait de l'électrique, bordel. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Des permacultures de quinoa dans le coffre ? Non, mais soyez sérieux. Nous, on fait des efforts. Avant, on mettait en avant les Porsche fines, les Ferrari basses, conçues pour la drague, le flirt, la séduction. Or, maintenant que c'est considéré comme du harcèlement de rue, et qu'un jeune gars peut plus être un peu entreprenant sans se retrouver avec une plainte au cul, on a changé. On vise maintenant l'homme marié, rangé, le baroudeur moderne, qui n'a plus besoin de maîtresse. C'est à sa femme officielle de s'exclamer « Oh, mais il est tellement gros, ton 4x4 !» Vite, fais-moi l'amour sur le capot pendant que le rôti est au four. Tu verras, j'ai mis de la boue sur mes sous-vêtements kaki pour qu'ils soient assortis à ton tank. Voilà. Et là, vous êtes bandante. Pas en chouinance, veut faire un enfant toute seule parce que se trouve pas de copain. Oh. Non mais on va où, je vous le demande. Les hommes aujourd'hui ont plus que jamais besoin de reconnecter avec leurs instincts primitifs, de sentir qu'ils sont encore les rois de la jungle en ville. Dans leur grosse auto, leur Batmobile. Laissez-les faire joujou en Jeep et remettez des jupes. Ah, non mais les écolos féministes voudraient quoi ? Que monsieur roule en mini Cooper dans une vieille Volkswagen Coccinelle, une Fiat 500 à l'ancienne ? Et pourquoi pas lui demander de faire la vaisselle, les courses et d'allaiter le bébé ? Mais coupez-lui directement le sexe avec un sécateur ! Tant que vous y êtes ! Ah pardon, j'oubliais, vous en avez pas, pas juste des couteaux non tranchants pour le pain en seigle. Venez, on revient aux bases. Si vous voulez un bon mari bien dominant comme on aime et non pas un mollasson dépressif biberonné à France Inter, au Médoc et aux graines germées, mettez-moi votre Nicolas Tarzan dans sa berline. Donnez à votre chérie son char d'assaut et son kiki criera youpi.
Merci pour cette analyse, Catherine Capot.
Je file, j'oubliais, je suis garée en double file.
Ça, évidemment, n'entendez pas moins de vous. Merci Rosa Burstein, merci Ludovic Bu de nous avoir rappelé qu'en matière d'automobile aussi, c'est pas la taille qui compte.
Un mot pour Madame Capot.
Oui.
Moi, je préfère les gens qui font des mobilités actives en roller, en vélo, etc. parce que ça galbe bien les mollets et les cuisses.
Ah, c'est ça.
À l'inverse des mobilités passives quand on a le cul vissé dans une voiture. Zoom Zoom Zen.